Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Nous en sommes au psaume 97. Psaume 97, qui nous rappelle, comme on a vu dans les psaumes précédents, que l'Éternel règne. Voilà, donc quand on lit le psaume 97, on va voir des éléments qui nous montrent que Dieu est au-dessus de tout. Il est le Tout-Puissant, c'est lui le feu dévorant. C'est ce que nous présente le psaume 97, les caractéristiques de Dieu.
Psaume 97. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel, car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté.
Voilà, gloire à Dieu. Voilà, là, on nous présente Dieu dans sa splendeur, dans sa gloire. On dit qu'il règne sur toute la terre. Et j'aime beaucoup à chaque fois que dans l'Ancien Testament, on parle des îles. Voilà, que les îles nombreuses se réjouissent. Voilà, ça montre vraiment le fait que Dieu s'intéresse même aux îles. Voilà, donc les îles, que les îles nombreuses se réjouissent. Rien n'est oublié par Dieu. Voilà, rien n'est oublié par Dieu. Il s'intéresse à tout. Donc même à des îles, à des petites îles dans le Pacifique, Dieu est là-bas. Et il y a eu des réveils aussi dans ces îles-là. Bon, ce n'est pas le sujet, mais ça montre l'intérêt de Dieu surtout. Et après, il y a une description de Dieu qu'une fois, on a dit que ça doit être des visions que reçoivent les serviteurs de Dieu sur Dieu. Pour décrire Dieu comme ça, il faut avoir expérimenté ça d'une certaine manière, soit par vision, voilà, soit un peu éveillé, comme du temps de Moïse, quand Dieu parlait à la montagne, il y avait vraiment une manifestation physique de feu, de puissance. Et souvent, les gens ont vu ça dans des visions, dans des rêves. Et voilà la description. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Je crois que quand on observe Dieu dans une autre dimension, on sent la justice, on sent la droiture, on sent qu'on ne peut rien cacher devant lui, on sent que tout est clair devant lui, et c'est ce que l'écrivain de ce psaume présente. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Rien ne résiste à la percée de Dieu quand il avance, rien ne résiste à ça. Les éclairs illuminent le monde, la terre le voit. Ces éclairs, pardon, illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Donc c'est une réalité, mais qui n'est perceptible que quand Dieu veut qu'on voit ça. Voilà. Et la personne qui écrit a dû expérimenter ça d'une certaine manière. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles, tous les dieux se prosternent devant lui. Et ça, ça nous montre aussi ce qui va se passer dans les temps à venir. Il est écrit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Donc à un moment donné, les idoles, tous les faux dieux, toute la création se prosternera devant Dieu, reconnaîtra qu'il est le seul Dieu. Ce temps-là, c'est le temps que nous attendons tous. Mais en attendant, les gens peuvent voir à travers les exploits de Dieu. Lorsqu'il utilise son fils, ses enfants, les gens peuvent voir la puissance et la gloire de Dieu. Comme du temps de Moïse, les gens avaient vu la puissance et la gloire de Dieu. Du temps des rois, vous savez, à l'époque, quand un peuple avait pris l'arche de l'Alliance, eh ben, ils ont eu des hémorroïdes. Voilà. Donc ils ont vu que Dieu seul était grand. Et quand ils sont venus le matin regarder là où ils avaient posé l'arche, ils avaient aussi la statue de leur Dieu, et la statue de Dieu, de leur Dieu était tombée carrément, la tête en face du sol. C'est des manifestations de gloire de Dieu. Les idoles tombent devant le Seigneur. Et quand l'apôtre Paul arrive en Asie, il prêche à Éphèse, il prêche l'évangile. Les gens ont pris les statuettes, les miniatures du temple de Diane et d'autres fétiches, d'autres idoles. Ils les ont brûlées au feu. C'est ça qui a créé, entre autres par la suite, une émeute. Voilà, puisque le nom de Dieu a pris le dessus sur le nom de faux Dieu. Je pense que ça doit être le souci de chacun d'entre nous, que le nom de Dieu dans notre vie et autour de nous puisse prendre le dessus. Ça doit être notre souci. Les caractéristiques du Seigneur sont là. À nous, à partir de ces caractéristiques, savoir honorer et défendre ce nom-là. Ces caractéristiques nous sont énumérées là. Ça continue. « Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut, verset 9, sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. » Il est loin, loin au-dessus, élevé au-dessus de tous les autres dieux. « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. » Donc nous sommes appelés par nos louanges, par notre vie, par la prédication, par la prière, on est appelés à manifester la gloire de Dieu. Ça doit être le souci de chacun d'entre nous, que ça se voit que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Voilà. On se souvient, même à la croix, le centenier romain, quand il a vu la terre trembler, l'obscurité s'abattre sur la terre, il a dit « Certainement cet homme était le Fils de Dieu. » Voilà. C'est ça notre appel. Avoir une proximité avec Dieu, une communion avec Dieu qui fasse que lui puisse manifester ce qu'on vient de lire de ses caractéristiques. Parce qu'il a besoin d'un canal pour se manifester. Il a besoin de ça. Et les miracles sont ça, sont cette manifestation-là. Donc, il manifeste sa gloire et les gens se taisent devant ça. Mais pour cela, il a besoin de canaux, des gens qui haïssent le mal, des gens qui n'acceptent pas que le mal prenne le dessus dans leur vie. Des gens qui ont saisi ces caractéristiques. Vous voyez, hier j'ai eu une longue discussion, même aujourd'hui encore, sur le fait que nous ne devons pas chercher à tout expliquer pour convaincre les gens. Nous devons présenter ce que nous-mêmes on a reçu. Qu'est-ce que toi tu as vu de Dieu? Qu'est-ce que toi tu as compris de Dieu? Tu dis ça aux autres. Mais penser qu'il faille expliquer pourquoi il y a des gens qui se font tuer, des gens qui se font violer, des gens qui se font... des bébés hein, qui sont tués pour faire des sacrifices, des enfants qui sont enlevés par les Illuminati pour faire des sacrifices. Comment expliquer tout ça? Comment y a des gens qui ont des questions d'un autre ordre, mais à quel moment Jésus dit qu'il est Dieu? Bien-aimés, on ne nous demande pas de donner des réponses dans le sens de gens qui posent des questions, mais on nous demande de présenter la révélation divine. Qu'est-ce que toi tu as reçu qui te fait croire que Jésus est Dieu? C'est ça que tu dois présenter. Tu ne dois pas chercher à répondre comme la personne veut que tu répondes. Parce que de toute manière, si tu dis que si même il y avait ce verset-là, il allait trouver un autre problème. On doit présenter les Écritures. Dire à la personne, voilà, moi en lisant ce passage-là, j'ai compris que Jésus est Dieu. Lis le même passage. Mais vouloir satisfaire la personne, ça va t'embrouiller toi-même. Parce que tu vas entrer dans son schéma à cette personne-là. Tu n'es plus dans la révélation divine. Et j'ai pris pour exemple ce que Philippe avait dit à Nathanaël. Philippe a vu Nathanaël. Il dit, Nathanaël, le Messie que nous attendons depuis longtemps, il est arrivé. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Nathanaël dit, oh, attends, de Nazareth va venir le Messie? Cette ville mélangée avec les étrangers? Où il y a un mélange entre juifs et étrangers? Ce n'est pas possible. Philippe n'a pas expliqué, tu sais, il est fils de David, il est né puisque sa mère vient de David, ceci, cela. Il y avait eu des mages qui sont venus le jour de ça. Donc je pense même Philippe ne connaissait même pas tout ça. Philippe a dit seulement à Nathanaël, toi-même viens et vois. Toi-même viens le rencontrer, tu te feras ton idée. C'est tout, bien-aimé. Nous ne devons pas chercher à satisfaire les humains pour prouver que Dieu existe ou qu'il est bon. Donc il faut que tu pries pour quelqu'un pour qu'il guérisse, comme ça il sera convaincu que Jésus est Dieu. Non, tu dois présenter ce que toi tu as reçu qui te fait croire que Dieu est Dieu, qui te fait croire que Jésus est Dieu. Tu présentes ce que toi tu as reçu. Tu ne cherches pas à prendre la place de Dieu et tout expliquer, puisque Dieu lui-même ne s'est pas donné cette peine-là. Pourquoi toi tu veux faire plus que Dieu? Pour expliquer tout aux humains afin de les convaincre. Non. Tu dis ce que toi, il te fait croire que voici, c'est Dieu. Vous savez, quand Paul témoignait, vous vous souvenez, il a témoigné de ça deux fois, dans Acte 22 et dans Acte 26. Quand il dit, mais il est devant le tribunal, il dit, mais si vous me voyez tel que je suis, ce n'est pas dû à mon imagination. J'étais même contre l'évangile. Et une fois, sur le chemin de Damas, pour aller arrêter les chrétiens et les emprisonner, j'ai vu une grande lumière qui m'a fait tomber. Et j'ai posé la question à la lumière, qui es-tu? Elle m'a dit que c'était le Seigneur Jésus que je persécute. Mon cœur a été transformé ce jour-là. Et j'ai compris. Puisque la voix m'a dit, va dire, va au milieu des païens, les sortir des ténèbres et les amener à ma lumière. Je suis Jésus, le Fils de Dieu, le Dieu vivant. Voilà c'est pourquoi, depuis ce jour-là, j'annonce Jésus partout. Il explique, maintenant c'est dans son explication. Toi, tu n'as pas toujours accepté que Dieu s'en occupe. Ce n'est pas à moi de te faire croire. Il y a un de nos anciens qui a dit ceci. Il a dit, la parole de Dieu, c'est comme un lion. On ne le défend pas. On le lâche, c'est tout. Tu le lâches. Tu mets plus de garde, du quoi? C'est un lion. C'est ça la parole de Dieu. Tu veux vouloir défendre la parole de Dieu. Il y en a même qui sont prêts à donner des cadeaux. Il y en a qui évangélisent avec des chocolats. Mais c'est bien. Non. Ils n'ont plus de puissance. Non. Je ne suis pas contre le fait qu'on aide les gens. Je dis tout simplement que faire de ça une stratégie. Distribuer les chocolats et puis... Non. Ça peut arriver, mais ce n'est pas une stratégie. La vraie stratégie, c'est dire. C'est que, en lisant, toi, tu as compris. Tu dis, moi, en lisant ce texte, Dieu m'a parlé de telle ou telle, telle manière. Vas-y, lis le même texte. S'il ne parle pas, ça c'est entre toi et lui. Moi, j'ai fait mon devoir de témoin. J'ai montré ce qui m'a changé. Je t'ai donné les Écritures. Je t'ai présenté Jésus. Bien-aimé, présentons Jésus. Quelqu'un qui va venir dire, mais pourquoi il y a la souffrance? Dis-lui que Jésus aussi a souffert à la croix. Ne cherche pas forcément à expliquer longuement. Ça peut, en fait, c'est le Saint-Esprit qui doit piloter tout. Pour certains, vous savez, pour certains, tu peux donner une réponse. Pour d'autres, une autre encore. Pour certains, tu vas leur dire, mais le péché, c'est ça qui a produit la souffrance. Mais à d'autres, tu vas leur dire tout simplement, Jésus lui-même a souffert. Ça montre que la souffrance nous atteindra tous. Puisque si le Fils de Dieu a souffert, qui sommes-nous pour ne pas souffrir? Voilà. Donc, à chaque personne, Jésus, même quand on lit les Écritures, avait une réponse. Tout ça pour revenir sur le fait que... sur ceci, bien-aimé, quand nous lisons les Écritures, Dieu se présente clairement, glorieusement. C'est comme ça qu'on doit le prendre. On ne doit pas chercher à voir... Pourquoi? Tel qu'on le présente là, c'est comme ça qu'il est. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Il faut choisir. Il y a quelque chose, un choix à faire. Soit tu crois tel qu'on le présente, soit tu ne crois pas. Voilà comment il se présente. Voilà toutes les caractéristiques. Ça doit nous pousser. Quand on est face à quelqu'un qui a de telles caractéristiques, eh bien, le verset 12 conclut en disant, juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Chaque jour, on doit le célébrer parce que voilà comment il est. Il est celui qui règle tout, qui est le Dieu Tout-Puissant. Voilà, il est écrit, Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Judas sont dans l'allégresse. Voilà, c'est les filles de Judas, c'est nous tous. On doit être dans l'allégresse d'avoir ce Dieu-là comme Père et comme Dieu. Voilà, psaume 98. Oui.
Allô.
Sorry. Oui, on...
oui, le psaume que nous venons de lire, sur le verset 6, il est écrit « Tous les dieux se prosternent devant lui ». Et dans 1 Corinthiens 8, verset 5, il est écrit « Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. » Oui, je voulais, ma question est que... On parle que dans le psaume 97, on montre que Dieu a créé tout, il est tout puissant et que tous les dieux se prosternent devant lui. Et Paul est en train de dire, il existe plusieurs dieux, néanmoins pour nous, en tant que chrétiens, il n'existe qu'un seul Dieu. Qu'est-ce que nous devons comprendre en tant que chrétiens? Est-ce que derrière ces dieux-là, c'est des esprits puisque pour nous? Est-ce que ce sont des esprits, puisque pour nous, Paul dit, néanmoins, il n'y a qu'un seul Dieu. Comment on
peut comprendre ? Oui, mais c'est des démons, d'ailleurs, c'est des esprits, c'est des démons. D'ailleurs, dans la suite du texte, je crois, là, que tu viens de lire, il le dit clairement, que quand il parle des sacrifices, il dit, ce ne sont pas des dieux, ce sont des démons. En réalité, c'est des esprits, c'est des démons, mais ça peut être aussi des gens, des humains, comme les Staline, les Hitler, qui se font Dieu. Voilà, donc c'est, tout ça, c'est des gens qui se prosternent devant l'Éternel. Au fait, on ne se rend pas compte de la toute-puissance de Dieu. Et quel exemple on peut donner pour expliquer ça? Parce que quand on dit que le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ça veut dire que quand Dieu paraît dans un endroit où il y a des gens comme Satan, certains grands démons, ou bien des humains puissants, ces gens-là deviennent comme des fourmis devant lui. Ils deviennent comme des fourmis devant lui. C'est vraiment une réalité. Et bon, il faut le croire, mais il y a des gens qui ont vu ça. C'est des réalités, c'est-à-dire la gloire du Seigneur est infinie, de sorte qu'il n'y a aucun être qui peut résister face à lui. Aucun. Dès qu'il paraît, un exemple simple, regardez quand même un grand dictateur devient très malade avec des tuyaux, tout ça, à l'hôpital, il devient rien du tout. Rien du tout. Ou bien quand un dictateur qui était presque tout puissant, qui est maintenant attrapé, ligoté, vous le regardez, vous voyez, mais c'est vraiment comme un voleur, un bandit de grand chemin, quoi. On voit que ce qu'on dit là, que tous ils vont se prosterner, c'est vrai. Donc on a vu ça, des gens qui étaient très très grands se prosterner devant Dieu, indirectement, parce qu'ils ne voient pas Dieu, mais indirectement, ils reconnaissent qu'ils ont perdu, ils sont faibles. Voilà, c'est ça. Dieu est tout-puissant. Nous passons au psaume 98.
Psaume. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du cor. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité.
Amen, amen. Ça, c'est une exhortation à une louange frénétique, à une louange d'exaltation. Pousser des cris de joie devant le Seigneur, pas une louange calculée, scientifique, non. Une louange qui vient du cœur. Parce qu'on a, on sait à qui on a affaire. On nous appelle à chanter un cantique nouveau. Souvent, il y a ce terme-là, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avec un état d'esprit nouveau. Voilà. On ne doit pas être dans un schéma, dans une logique de routine. Même si c'est un chant qu'on connaît, il faut qu'on chante cela conscient, vraiment, au moment où on chante des caractéristiques de Dieu. Vous savez, les psaumes qu'on va lire aujourd'hui sont reliés, quoi. Les quatre psaumes qu'on lit sont reliés. Dans le psaume 97, l'Éternel règne et on présente ses caractéristiques. Le psaume 98 enchaîne en disant, alors louez-le. S'il faut crier de joie, criez parce que vous vous trompez pas. Vous êtes comme les bien-aimés, comme nos prédécesseurs l'ont dit, nous combattons dans la victoire. Vous êtes déjà dans la victoire. N'attendez pas de voir pourquoi. C'est maintenant que vous devez louer si vous êtes vraiment des enfants de Dieu. Vous devez pas attendre la fin du match. Dieu vous l'a déjà annoncé la fin du match. C'est lui qui va gagner. Alors, célébrez dès maintenant. Et c'est ça qui nous fait perdre beaucoup, beaucoup de bénédictions. Le manque de louange. Ça nous fait perdre beaucoup, beaucoup de choses parce que quand on ne loue pas Dieu, on a tendance à faire quoi? À louer l'ennemi. Je vous dis la vérité, nous tous, comment on loue l'ennemi? On commence à regarder tout ce qui ne va pas. Telle chose ne va pas. Telle chose ne va pas. Telle chose ne va pas. D'ailleurs, telle autre chose, ça fait 4 ans. On devient de journalistes, de publicitaires, de malheurs. N'est-ce pas louer l'ennemi? Et ça finit par quoi? Par un découragement. Ça finit par quoi? Par la faiblesse et par le naufrage dans la foi. Il faut louer Dieu. Ces gens-là, comme j'ai dit, ils ont eu parfois des 15 minutes comme ça où ils ont contemplé le Seigneur. Maintenant, ils ont écrit. N'attends pas de contempler comme eux pour croire. Ce qu'ils ont écrit là, c'est inspiré par l'Esprit. Ils ont eu comme une sorte d'illumination, ils ont vu les choses clairement et ils ont écrit tout ça. Mais à nous de saisir, de dire, mais si ce monsieur insiste autant pour que je loue Dieu, c'est qu'il a vu quelque chose. Il en savait quelque chose. Et il nous donne une raison au verset 9. Devant l'Éternel, voilà, que les fleuves battent des mains. Hein. Il demande même que les fleuves battent les mains, des mains, que les arbres battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie, vous vous rendez compte. Il demande même à toute la création de réagir. Ça correspond un peu à ce qu'on va voir dans Apocalypse à la fin. Il y a une adoration d'Apocalypse, on dit que toutes les créatures, peut-être qu'on peut vérifier ça, dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Quand l'agneau apparaît, donc, Apocalypse chapitre 5, il est écrit au verset 13.
Apocalypse 5, verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. Au siècle des siècles.
Voilà. Toutes les créatures, donc toute la création va vibrer dans la louange. Parce que vous savez, le langage, c'est des fréquences. La louange, plutôt la musique, c'est des fréquences. Le tremblement de terre, c'est des fréquences. Tout est une question de fréquence ici sur terre. Donc pendant qu'on est en train de parler là, le bâtiment dans lequel on est en train de bouger à une fréquence. C'est des choses que les gens étudient dans la résistance des matériaux. Tout bouge. Maintenant, il y a une fréquence aussi pour la louange. Donc, à un moment donné, cette fréquence-là va s'installer et tout va vibrer pour célébrer le Seigneur, pour glorifier Dieu. Les montagnes, ça ne parle pas notre langage, mais elles bougent aussi en fréquence. Ça bouge. Tout est une question de fréquence. Et à un moment donné, ces mouvements-là vont éclater pour célébrer le Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, si les hommes se taisent, les pierres vont crier. Ces pierres que vous voyez là vont crier. Si les hommes se taisent. C'est pas des paraboles, c'est pas des images, c'est vraiment la réalité que la louange, Dieu est tellement digne de louange que ça pousse même les créatures inertes à le louer. Ce sont des choses aussi un peu spirituelles, mais que Dieu nous aide. Voilà. Et il y a une raison très importante qui est donnée au verset 9, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et le peuple avec équité. C'est une raison importante. Vous savez pourquoi? Un de nos problèmes sur terre, c'est l'injustice. Voilà. L'injustice fait partie de nos plus gros soucis sur terre. On est entouré d'injustice. Il y a des dictateurs, il y a des mafieux, il y a des gens du Nouvel Ordre Mondial, il y a l'esclavage, il y a les vols, la colonisation. Il y a eu trop d'injustices sur la terre, la Shoah. Donc, Les guerres, c'est des injustices. C'est des injustices. Un pays qui se croit fort et va faire la guerre ailleurs et ça va tuer des millions de personnes. C'est des injustices dans les familles, des injustices. Un de nos soucis, je crois, c'est pourquoi c'est écrit heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Parce que c'est une aspiration profonde de chaque humain, la justice, le droit, que ce qui est vrai soit imposé à tous. Même si après, nous-mêmes aussi, on est des pécheurs, on n'y échapperait pas, mais grâce soit rendue à Jésus, dont le sang efface nos péchés. Du coup, on peut quand même réclamer la justice, parce qu'on sait que notre justice à nous, elle vient de Christ. Donc nous réclamons quand même cette justice, parce que la justice, l'injustice gâche beaucoup de choses sur terre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parfois au travail, c'est toi qui as le diplôme qu'il faut, tu as la carrière qu'il faut, mais on ne te met pas à ta place, par injustice. Beaucoup de malheurs, regardez aujourd'hui. Il y a des gens qui, à eux seuls, ont plus d'argent que 10 pays. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Des gens comme Bezos, Elon Musk, Bill Gates, chacun, tout seul, a plus d'argent que le produit intérieur brut de plusieurs pays. Rassemblés, je ne dis pas qu'un seul pays, donc plusieurs pays rassemblés là où meurent des pauvres, mais c'est une seule personne qui a plus d'argent que tout un pays. C'est de l'injustice. Parce qu'il va en faire quoi? Voyez ce qui se passe en Hollande, là où on est en train de construire le nouveau yacht de Bezos. Ils ont un pont qu'ils aiment beaucoup, c'est un pont, un très vieux pont qui avait été détruit, je crois, lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais ils ont reconstruit ça à l'identique, tellement ils aiment ce pont-là. Mais ce pont-là va être démantelé parce que le yacht de Bezos, le yacht est tellement grand, les mâts sont tellement grands qu'il faut démanteler le pont pour faire passer le yacht d'une paire. C'est-à-dire que toute une ville va être brimée à cause d'une personne pour son luxe. L'homme a soif de justice. Et ce psaume nous dit, réjouissez-vous, parce que la justice va être rétablie. Amen. Arrêtez de pleurer. Il y a quelqu'un qui vient établir la justice. Et la justice aussi, c'est mettre chacun à sa place aussi. Hein. Le dictateur qui fait peur aujourd'hui, le jour où Dieu va mettre la justice, vous le verrez comme un humain, comme tous les humains. Ça, c'est ça aussi la justice. Ça remet chacun à sa place. Nous aspirons après tout ça. Mais on nous dit le champion de justice, il arrive. Il va juger le monde avec justice. Les peuples avec équité. Il y aura le droit. Le vrai droit, la vraie équité. Alors, vaut mieux, dès maintenant, pour ne pas être soi-même aussi frappé par cette justice-là, dès maintenant, s'humilier et venir auprès de lui dire, je viens me mettre sous ton ombre. Voilà, c'est ça, là. Je veux me mettre sous le sang de Jésus. I'm gonna stand right under the blood. Je me mets sous le sang de Jésus. Comme ça, je profite de sa justice. Lui, il a payé pour moi la croix. Maintenant, je suis considéré comme innocent. C'est ça aussi pourquoi nous croyons en Jésus. Pour être considéré comme innocent, ne plus être frappé par la justice de Dieu quand Dieu viendra juger, comme c'est écrit, le monde. Il jugera le monde avec justice. Rien ne sera caché. Mais autant effacer tout ça dès maintenant par le sang de Jésus. Comme ça, il ne trouvera rien du tout sur notre livre à nous. Voilà, vraiment louons le Seigneur avec des cris de joie, s'il le faut. Je pensais qu'on connaissait un chant que, voilà, je pensais, pousser vers l'éternel des cris de joie. Mais je me rends compte que je n'avais pas encore appris ça au bien-aimé. Donc nous allons prendre ça dans les semaines à venir pour célébrer le Seigneur. Voilà, on va apprendre ça, les femmes et les hommes compris, comme ça on va chanter ça une fois, on enregistre pour la gloire de Dieu. Voilà, on passe au psaume 99. Oui, question.
Sur Internet, dans Matthieu, Jean-Baptiste dit de Jésus qu'il viendra baptiser de l'Esprit et du feu. Que représente-t-il ce feu? Ce feu représente quoi?
Le feu, c'est le feu purificateur. L'image, c'est les minéraux, les minerais plutôt. Quand les minerais, par exemple, si vous voulez obtenir de l'or, de l'aluminium ou du fer, vous ne trouverez jamais le fer naturellement comme ça, sous la terre, ni l'or. C'est toujours mélangé avec des minerais. Sauf exception, dans certaines rivières, on peut trouver de l'or. Mais en général, tous ces métaux-là sont dans des minerais. Et quand vous prenez ces minerais-là, vous les mettez au feu, et à haute température, il va y avoir séparation entre le métal lui-même et les déchets qui l'entourent, la roche qui l'entoure. Donc il va y avoir séparation, et comme ça, on enlève le déchet et on prend que le métal lui-même. Donc ce feu-là, c'est un feu purificateur qui enlève le déchet pour ne garder que l'or lui-même. On peut trouver ça aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3. Le frère Paul dit que toutes nos œuvres passeront à travers le feu. Donc c'est le feu purificateur, de sorte que les œuvres en bois, en chaume, en paille vont être consumées. Seules vont demeurer les œuvres en or, en argent et en diamant. On retrouve ça aussi dans 1 Corinthiens 3. C'est le feu purificateur. Et puis le baptême de l'Esprit, bien sûr, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous saisit pour faire le travail de Dieu. Voilà, donc ce feu purificateur, concrètement, ce sont toutes les épreuves, le parcours que Dieu, à travers lequel Dieu va nous faire passer, qui vont nous amener à cette purification-là.
Deuxième question. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait maudit plusieurs pays. Ces pays connaissent une série de problèmes aujourd'hui, guerre, famine, exemple la Syrie, l'Irak. Est-ce encore une conséquence de ces malédictions?
Dans Exode, on dit que les malédictions demeurent jusqu'à 1000 générations. Voilà. Donc, est-ce qu'on est encore dans 1000 générations où c'est dépassé? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que quand les chrétiens sont dans un pays, ils peuvent réclamer cette terre-là, donc effacer toute malédiction à cause du sang de l'agneau.
Troisième question, à quel moment on est baptisé du Saint-Esprit?
Alors, ça dépend de ce qu'on entend par être baptisé du Saint-Esprit. Voilà. Le Seigneur a dit, vous serez baptisé de feu et de l'Esprit. Jean-Baptiste a dit, donc celui qui vient après moi va vous baptiser de feu et de l'Esprit. Baptiser, à l'origine, ça veut dire plonger. Donc on est plongé dans le Saint-Esprit. On est, voilà. L'apôtre Paul va loin dans 1 Corinthiens 12, 13 qu'on va lire. Il dit, on est abreuvé. Lui, il va loin jusqu'à abreuver. Si nous considérons le baptême du Saint-Esprit au sens strict, être baptisé, pas le baptême, parce que le mot baptême du Saint-Esprit n'existe pas dans la Bible. C'est être baptisé de l'Esprit qui existe. Voilà. Parce que dire le baptême, c'est rendre sa technique isoler ça. Voilà, ça, la Bible n'isole pas ça comme le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est dit clairement, c'est isolé, mais le baptême du Saint-Esprit, on ne dit pas le baptême du Saint-Esprit, on dit baptiser, ce qui peut vouloir dire juste plonger, parce qu'à l'époque, le mot que vous utilisez, baptiser, en grec, ça veut dire plonger, ça veut dire immerger. Voilà, c'est pas un mot technique en grec, c'est juste un mot simple. Mais c'est maintenant que c'est devenu un mot technique, le baptême, mais ça c'est valable pour le baptême d'eau, mais ce n'est pas valable pour le baptême du Saint-Esprit. Si on entend par littéralement plonger dans le Saint-Esprit, tous les enfants de Dieu sont plongés dans le Saint-Esprit. Parce que sans ça, tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu. Maintenant, si on entend par là recevoir des dons spirituels, ça, ça arrive à chacun au moment où Dieu le veut, soit compris ou pas. Voilà, il y a des cas où il faut prier pour que ça se passe. Il y a des gens aussi qui n'ont pas prié, ça s'est passé. Voilà. Donc en tout cas, en définitive, c'est Dieu qui le veut. Mais on nous appelle à aspirer à cela, à prier pour ça, mais c'est Dieu qui décide. Maintenant, si on veut rester vraiment biblique dans le sens qu'on va lire là, ben, c'est tous les chrétiens qui sont baptisés de l'Esprit. Alors, on va lire 1 Corinthiens 12, 13.
1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit.
Voilà, donc nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit, baptisés du même esprit, tous les chrétiens. Et d'ailleurs, la condition, Jésus la donne aussi dans Jean 3, il dit à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit pour aller au ciel. Donc ça, comment quelqu'un peut naître d'esprit sans être baptisé de l'esprit, c'est pas compatible. Donc là, on a lu hein, déjà ce verset-là, ça tranche le problème. Mais toutefois, il y a une autre acception d'être baptisé de l'esprit, c'est le fait de manifester les dons du Saint-Esprit, ben là, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui nous fait animer de cela. Nous, on peut prier pour ça. Oui, j'attends.
Troisième et quatrième génération pour les malédictions d'Exode.
Bonsoir. Ah oui, c'est quatrième génération, excusez-moi, j'ai dit mille, mais j'ai dit quatre générations. Mille, c'est pour la bénédiction. Oui, oui, c'est bien de rectifier. Oui, oui. Ok, merci. Ok, donc on ne sait pas si on est sûr que la Syrie, l'Irak d'aujourd'hui, on n'est pas là. On n'est plus à la quatrième génération. Donc, voilà, on ne peut pas dire que ce sont ces malédictions-là. Voilà. Ok, nous continuons, psaume 80. 99.
L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom, grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu affermis la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel, et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. L'Éternel, notre Dieu, tu les exaucas. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne. Mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Car il est saint, l'Éternel, notre Dieu.
Amen, amen, amen. Voilà. Donc ça, il y a encore la même introduction que le psaume 97. L'Éternel règne, voilà. Les peuples tremblent. Amen. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Vous savez, au temps où le christianisme était interdit en Union soviétique, en Russie pratiquement d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu utilisait des gens encore. Et il faisait des réunions dans des maisons en secret. Et le Parti communiste, à un moment décidé, à un moment donné, il a décidé d'éradiquer ce phénomène-là. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont pris les plus grands commandos, les plus grands du pays, commandos militaires, hein, les plus forts. Ils ont fait une équipe spéciale pour traquer les cellules de prière et pour éradiquer ce phénomène. Et quand ils arrivaient au cours d'une cellule de prière, ils ne se comportaient pas comme la police normale. Une sommation, discussion, mise en garde. Non. Ils entraient, ils commençaient à vous taper. Et donc, quand ils ressortaient, les gens devenaient. Donc, ils avaient une jambe cassée, un bras cassé. Voilà. Et il y a un livre qui s'appelle « Pardonne-moi, Natacha ». C'est le livre qu'a écrit un commando, un de ces commandos-là. Ils ne comprenaient pas pourquoi, pour ces ministres de chrétiens qui ne sont même pas forts, il faut qu'on emploie des gens comme eux. Ils ne comprenaient pas que ça soit le problème numéro un du parti communiste qui était rival des États-Unis, qui voulait dominer le monde. Ils ne comprenaient pas que ce soit ces petits chrétiens-là qui prient là, que ce soit le problème du parti, à tel point qu'on prenne le plus fort des commandos. Ils ne comprenaient pas, bien-aimés, c'est ce qui est écrit là. L'éternel règne, les peuples tremblent. C'est-à-dire que nous, on ne voit pas. Mais pendant que les vrais chrétiens prient, les dictateurs sont pas à l'aise. Leurs féticheurs sont pas à l'aise. Leurs magiciens ne sont pas à l'aise. C'est pourquoi ils vont voir le dictateur pour dire, écoute, attaque-toi à ces gens-là. Même je crois que lui-même, le dictateur aussi, ne comprend pas. Même pourquoi mon féticheur me demande de... Ces gens-là, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. Il faut les attaquer. C'est pourquoi, bien-aimés, il y a toutes les lois qui sont faites pour étouffer les chrétiens. Étouffer le christianisme. Et les églises tombent dans le panneau, les gens mettent les masques pendant la prière, mais non. Donc on ne sait pas ce que tu dis. Quoi. Le démon se dit, ah ben on a réglé leur cas, ils ont mis le masque, c'est bon. On peut faire nos œuvres tranquillement. Le Seigneur règne, les peuples tremblent. Même quand on est en prison, mais qu'on prie, les eux, ils tremblent. Ils tremblent. C'est pourquoi on ne doit pas se sous-estimer. Il faut continuer à prier. Peut-être c'est à cause de ça qu'on est encore vivant comme ça. Il faut continuer à prier. Là où Dieu règne, mais Dieu règne où? Là où les gens prient. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là qu'il vient. Psaume 122 aussi. Ah, on n'est pas encore, on est encore. Il dit, mais Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est là qu'il règne. Il y en a qui attendent qu'on dise que Dieu règne lorsqu'il va y avoir des trucs du genre Moïse, mais rouge, c'est pas en deux. Ah ben là, Dieu règne. Lorsqu'il y a comme une sorte de conférence comme à l'Arena Bonke avec 500 000 personnes, ah ben là, Dieu règne dans la ville. Mais c'est pas seulement ça. Dieu règne là où quatre personnes sont en train de prier. Il règne en ce moment-là, dans cet endroit-là, et dans leur prière. C'est-à-dire que ce qu'eux disent dans la prière, Dieu se met en travail pour agir là, sur ça. Il règne. Et ces gens-là, ils tremblent. Combien de gens n'ont-ils pas été sauvés parce que leur femme ou leur mari priait? Un jour après, quand lui aussi se convertit, on lui dit, mais on te cherchait depuis longtemps, à chaque fois qu'on venait, c'était les prières de ta femme qui nous embêtaient, qui nous empêchaient. Alors que lui-même était parfois même dans la magie. Mais comme il avait une femme qui priait, les démons ne pouvaient rien faire. Vous voyez combien Dieu règne? Combien de satanistes n'ont-ils pas témoigné que mais dans tel quartier, on n'arrivait pas parce qu'il y avait un groupe de pirates solides dans ce quartier-là. Ils arrivaient à envoûter plusieurs quartiers, mais arriver à votre quartier, ça ne marche pas. Parce que là où les chrétiens prient, Dieu règne. Bien-aimé, que rien ne t'empêche de prier. Que rien. Le frère André disait, ils nous ont fermé la porte de la Chine par des murailles. Mais rien ne peut empêcher la prière de traverser les murailles de la Chine. Ils ont prié et la Chine est devenue maintenant chrétienne. Sérieusement, vous savez, le pays où il y a l'évolution chrétienne la plus forte, c'est en Chine. Sérieusement. Il règne. Il faut continuer à prier. Pendant qu'on prie, Dieu règne. Il est là. Il travaille. Et ce commando-là ne comprenait pas. Mais pourquoi? Pourquoi s'attaquer à ces gens? Ils n'ont pas de complot à faire. Eux, il faut que prier. Mais oui, mais toi, tu ne sens rien, toi. Mais pendant qu'eux, ils prient, les démons qui pilotent le Parti communiste, ils ne sont pas à l'aise. Ils sont dérangés. Et c'est pourquoi on a vu que ça n'a pas traîné. Hein. Ils avaient dit quoi, les communistes, au début? Le communisme est en Russie pour combien? 1000 ans. Mais ça n'a pas dépassé 70 ans. Mais ils étaient là pour 1000 ans, mais rien ne peut résister à la prière des enfants de Dieu. Rien. Et un jour, il a tapé une fille qui s'appelait Natacha. Il l'a tapé sérieusement. Et quel ne fut pas son étonnement, dans un raid ultérieur, de tomber encore avec cette fille en train de prier dans un autre groupe de prière. Alors là, lui-même, au fait, il l'a tapé, après l'avoir tapé encore, il est sorti en train de réfléchir. Mais la manière dont j'avais frappé cette fille-là, comment elle peut revenir encore prier? Il a commencé à réfléchir. Il a été dépassé par Natacha. Et c'est comme ça que, petit à petit, il est venu en lui ces gens, l'idée que ces gens-là sont innocents, ils n'ont rien fait. Et notre gouvernement est mauvais. C'est comme ça qu'il a profité d'un temps d'exploration dans un navire qui allait vers les côtes américaines. À un moment donné, les gens étaient distraits. Il a plongé. Il a nagé jusqu'aux côtes canadiennes. Mais bien sûr, ce n'était plus lui, puisque c'était tellement long que, au fait, les pêcheurs l'ont repêché. Donc, lui, il se considérait déjà comme mort. Il savait qu'il pouvait tenir, je crois, parce que c'était un grand sportif. Je vous ai dit, il choisissait les gens les plus forts. Il savait qu'il pouvait tenir 2 à 4 heures. Il savait qu'après 4 heures, il ne pourrait pas tenir dans la nage. Mais ça a dépassé plus de 4 heures. Donc il s'est retrouvé repêché par des poissons, par des pêcheurs. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Et par la suite, il a fait ce livre-là. Et ce livre-là, dans les années 70, avait vraiment beaucoup fait parler de cette affaire-là. Mais c'est ça, pardonne-moi Natacha. Après, il s'est converti aussi en Christ, bien sûr. Voilà. Parce que choqué, traumatisé par Natacha. Comment, après l'avoir tapé aussi durement, en plus une fille, il la retrouve encore dans une cellule de prière. Alors il a dit là il y a un problème. Il s'est dit là, il y a un problème. C'est ça là, le règne de Dieu, tu vois, vous voyez, le règne de Dieu dans Natacha a fait trembler ce commando-là. Dieu était tellement puissant dans cette fille-là que cet homme a eu les bras baissés. Voilà. L'Éternel règne. Le peuple tremble. Bien-aimé, il faut qu'il règne chez nous. Il faut qu'on cède à lui. Il faut qu'on reconnaisse que Dieu est grand. C'est pourquoi c'est écrit qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Voilà. Exaltez l'Éternel notre Dieu. Prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Voilà. Exaltez l'Éternel, verset 9, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Bien aimé, ça commence par nous-mêmes. Avant de chercher à influencer les autres, que nous-mêmes on l'exalte, qu'on fasse de lui le champion de notre vie. Amen. Psaume 100.
Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération.
Amen. Une fois de plus, poussez vers l'Éternel les cris de joie. Alors, bien aimé, un petit bémol, je ne suis pas en train de parler de cris de joie charnels, hein, où les gens font ça par rythme musical. Je suis en train de parler de la conscience des qualités de Dieu qu'on nous présente dans le psaume 97. On nous présente les qualités de Dieu, les caractéristiques de Dieu dans le psaume 97. C'est quand tu prends conscience de tout ça, tu loues Dieu. Tu cries. Tu dis, mais je m'embêtais pour rien. Mon Dieu est plus fort. Allez, tu loues Dieu. Tu continues la vie. La tristesse s'en va. Ce n'est pas les histoires musicales ou dans certaines cultures. Voilà, les gens aiment danser, aiment. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de la conscience de ce qui est écrit sur Dieu. Quand tu es conscient de ça, tu cries. Tu loues Dieu. Tu exploses. Parce que c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Pousser vers l'Éternel des cris de joie. Ça va en harmonie avec la puissance que lui-même dégage. Et ça amène à pousser des cris de joie dans nos cœurs et par la bouche. Entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Il faut se dire, je vais où? Je vais louer l'Éternel, je vais glorifier l'Éternel. Voilà. Il y en a qui entrent dans les portes du Seigneur, ils entrent dans un moment de prière avec mille réflexions. Non. Quand tu entres dans ses portes, tu prends conscience qu'il est au-dessus de tes problèmes. Tu prends conscience qu'il est le Tout-Puissant et tu viens le lui dire. Tu as dit que malgré tout ce que je vois, toi tu es le plus grand. Je me rappelle de Richard Wurmbrand qui racontait l'histoire quand ils étaient en prison, il y avait un d'entre eux qui aimait que prêcher, quoi. Il aimait raconter les œuvres de Dieu. Il aimait parler de Dieu. Or, c'était interdit, hein. C'était interdit. Alors, parfois, un garde passait et il entendait en train d'exhorter les autres, de prêcher. Et on le sortait. On le torturait. On le battait. Quand dans ces prisons-là, c'est sans âme. Les gens sont sans état d'âme. On va te donner des coups. Les dents vont se casser. On va le frapper. Et dès qu'on le ramène en train de tituber, on le ramène dans la cellule, le garde ferme la porte, il dit, ah, je m'étais arrêté sur quoi? Ah, bien aimé, ça ce sont des gens qui louent Dieu. Non, il dit, je m'étais arrêté sur quoi? Il vient de se faire bastonner comme il faut à cause de ça. Et quand il retourne dans la cellule, il dit aux amis, je m'étais arrêté sur quelle histoire? Et il continue encore. C'est ça la louange. C'est-à-dire que tu proclames qui est Dieu, quelles que soient les circonstances. Ça, ce sont des gens qu'on trouvera près du trône de Dieu, du Seigneur au ciel. Voilà, c'est eux qui seront là-bas. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, prochaine réunion des équipes, nous prévoyons 30 minutes pour apprendre le chant, pousser vers l'Éternel des cris de joie. Au cas où j'oublie, bien aimé, rappelez-moi, parce que c'est le temps de la louange à notre Dieu. S'il nous a amenés dans ces psaumes-là, il veut nous ramener à quelque chose. Voilà, que son nom soit béni, nous allons prier. Seigneur, nous voulons prier que nos vies soient des vies de louange, que nous nous arrêtions d'avoir des cœurs compliqués, complexes, en train toujours de juger ceci, de juger cela, de s'offusquer de ceci, de s'offusquer de cela. de réfléchir sur ceci, cela, alors que toi tu règnes. Lorsque tu règnes, nos pensées doivent être habitées aussi de ce règne-là. Nos pensées ne doivent pas être pilotées par les soucis, pilotées par les polémiques, mais nos pensées doivent être remplies de la louange, Seigneur. Parce que si nous ne le faisons pas, les montagnes vont le faire à notre place, les pierres vont crier à notre place. Ô Père éternel, libère-nous de la glace, libère-nous de la léthargie, due à notre égoïsme, due à l'orgueil, Seigneur, nous voulons être libres. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est quoi? C'est ce que c'est la description qu'on fait de toi dans le psaume 97. Tu es grand, tout puissant, tu as plani les montagnes, ça coule comme de la cire. Les fleuves battent des mains à ta gloire. Seigneur, nous voulons entrer dans cette dimension-là, par ta grâce, par la puissance de ton esprit. Merci encore pour tout, au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.